Point de vue avec Régie Bulle Immobilier.
Bonjour à toutes et à tous, cette fois-ci c'est sûr, les playoffs sont lancés après deux matchs plutôt faciles pour Gotteron. Lugano a haussé le ton et réussi l'exploit de venir s'imposer à Fribourg mercredi lors de l'acte 3 des quarts de finale. Une victoire 2-1 après prolongation qui permet aux Tessinois de revenir à 2-1 dans la série. Pour parler de ce quart de finale, nous accueillons dans cet épisode de Point de vue un confrère journaliste, Philippe Ducarreau. Salut Philippe.
Ouais, salut.
Alors, il te plaît ce quart de finale ?
Ah oui, il me plaît. Pour être très franc, si je prends ça sous l'angle de Fribourgeois, il me plaît moins depuis hier soir. Mais disons que oui, c'est une belle série. Comme la série de Lausanne, ce sont deux très belles séries, en fait, avec de bons matchs de très haut niveau.
On va revenir en détail, bien sûr, sur ces trois premiers matchs. Mais avant de lancer la discussion avec mon collègue Pierre Chauvet. Salut Pierre.
Hello.
Dis-nous, Philippe, un peu ce que tu deviens. On t'a connu, tout le monde t'a connu comme journaliste à la RTS. Ouais. Et depuis, pas mal d'eau a coulé sous les ponts. Où tu en es aujourd'hui ?
Où j'en suis ? Eh ben, je vous annonce aussi une nouvelle. Ce matin, j'arrête.
Ah. Voilà. Décidément, tous les podcasts, on a le droit à ce coup.
Voilà, je vous réservais ça. Non, en fait, je crois que c'est un secret de polichinelle, mais j'ai eu pas mal de nuits de santé et je dois arrêter. Voilà. Donc, ça veut dire que je ne vais pas lâcher le hockey, je ne vais pas lâcher ni le site Planète Hockey, ni le Strap, puisque je fais également du café théâtre maintenant. Mais je suis essoufflé, on va dire ça comme ça. Donc, j'arrête, mais ça ne m'empêche pas quand même de continuer à suivre l'actualité de très près.
Si vous voulez annoncer votre retraite, n'hésitez pas à nous écrire, on prend tout le monde. Point de vue @laliberté.ch.
Pierre, tu continues toi ?
Ouais,
mais
il est trop jeune.
Et moi j'arrive à mes 60 ans, mais j'en fais au moins 80.
t'exagères. Bon, on aura quelques questions d'auditeurs en fin d'épisode, plus axées sur toi et sur ta carrière de journaliste. D'abord, on revient peut-être rapidement sur les deux premiers actes. Pierre, il n'y a pas eu photo, Fribourg était largement supérieur. C'était presque surprenant quand même qu'il y ait autant d'écart.
Ouais, effectivement. On l'a vu que par rapport au... Enfin, avec le troisième match, il y a peut-être pas autant d'écart que ce qu'on a pu voir sur les deux premiers matchs entre ces deux équipes. Lugano s'est rebiffé, mais c'est vrai que sur l'acte 1 et 2, on a vu un Fribourg vraiment au-dessus physiquement, ce qui était le plus rassurant et la meilleure nouvelle pour Gotteron, avec une équipe qui mettait beaucoup d'intensité, qui était très très efficace aussi devant le but, qui avait même pas forcément besoin d'avoir un immense Reto Berra parce que Lugano était un peu insipide. Et puis le vent a légèrement tourné mercredi soir.
Philippe, c'est vrai qu'on pouvait imaginer que Lugano allait venir très fort. Ouais. Il sortait de ce derby de play-in contre Ambry. Il avait dû se battre jusqu'au bout pour essayer d'avoir sa place en play-off, ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Puis après, avec cette bataille, et puis c'est quand même Gotteron qui est arrivé plus fort.
Ouais. C'est clair. Alors, en valeur pure, Gotteron, même après la défaite d'hier, Gotteron est meilleur que Lugano. Ça, c'est évident. Et c'est peut-être même, je trouve, un peu réducteur parfois de dire qu'il suffit de contrôler la ligne de Turkov pour battre Lugano. On a vu justement hier que c'était différent, même si encore une fois le premier bloc luganais a quand même été bien mis encore une fois sous l'étain noir, ou presque, par le quatrième bloc fribourgeois. Moi je pense que Lugano a été en dessous de sa valeur réelle sur les deux premières manches, et on a retrouvé un Lugano un petit peu plus, je vais pas dire détendu parce que c'est pas vraiment le cas, mais un Lugano un peu plus à son affaire, dans un style de jeu qui lui convient mieux. Tout à fait par hasard, hier à midi, je dînais avec Dani Gelina, qui aujourd'hui est devenu le coach des arbitres. Il me disait, ça va être un match compliqué par les arbitres, parce que la seule solution désormais pour Lugano, pour rebondir dans la série, c'est de muscler le jeu. Et c'est ce qu'ont fait les Luganais hier. Le problème, c'est que ce sont les Fribourgeois qui ont été punis. Là, il y a quelque chose c'est paradoxal, mais c'est finalement Lugano qui a essayé justement de toucher un petit peu plus au fond de leur chair les Fribourgeois, mais Fribourg a très mal réagi parce que, je sais pas, c'est le contexte, c'est l'émotion, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais toujours est-il que Fribourg a mal réagi sur la nouvelle manière de jouer de Lugano, et c'est ça qui explique en grande partie, à mon avis, la défaite d'hier. Mais Fribourg reste meilleur, encore une fois. D'ailleurs, le match ne tient sur rien. On pourrait être à 3-0 ce soir, aujourd'hui, sans problème.
On l'a vu d'ailleurs dans le premier tiers. Mercredi, c'était une toute autre équipe de Lugano qui est arrivée, qui voilà, un peu usée aussi du registre de la provocation. Julien Sprunger est tombé dans le panneau assez rapidement. Ça peut être un peu étonnant pour un joueur de 38 ans.
Ouais, mais je sais pas s'il est tombé dans la provocation. En fait, il fait deux ou trois gestes, dont le dernier qui déborde un peu et qui s'en va au niveau du cou de son adversaire.
Mais c'est son adversaire qui lui en met plusieurs avant.
Ouais,
c'est
ça. En fait, c'est une réaction, comme il a d'habitude là. Bon, d'abord, il n'a pas eu de chance parce que la canne est allée où il ne fallait pas. Mais je pense que là, s'il ne répond pas, Sprunger, là, ça dénoterait un manque de combativité, un manque de volonté de vouloir marquer son territoire. Donc, il a raison de le faire. Le problème, encore une fois, c'est que, l'arbitrage qui a été très très pointilleux depuis le début du match, et je pense que justement les arbitres très près avaient décidé d'avoir une ligne dure depuis le début, et ben cet arbitrage n'a pas convenu à Fribourg, puisque finalement, je ne vais pas dire qu'il y a eu un mauvais arbitrage, mais Fribourg a fait un mauvais premier tiers-temps parce qu'il n'a pas réussi à gérer justement cet aspect plus physique. Il lui a fallu 20 minutes pour comprendre un petit peu ce que cherchait Lugano. Voilà. Et regardez, il n'y a pas eu de rythme au début du match. Mis à part les 8 minutes de retard du coup d'envoi à cause des confettis, sur les deux premières minutes de jeu, il a fallu 7 minutes pour disputer les deux premières minutes de jeu.
Ouais, ça veut tout dire, beaucoup d'arrêts de jeu.
Et Lugano a tout fait pour empêcher Gauthieron de rentrer normalement dans son match. Et ils y sont parfaitement parvenus.
C'est vrai que tu parlais de Sprunger. C'est un événement qui est intervenu très tôt dans le match. Entre ce courage qu'il faut avoir, ce répondant quand on est agressé, et puis aussi l'intelligence peut-être de ne pas faire le coup de trop, la frontière est ténue. Je me souviens que c'est Dubé qui disait voilà, il faut des fois accepter se prendre une ou deux tapes dans la gueule pour
et ne pas répondre.
Et ne pas répondre,
ce que réussit à faire Di Domenico actuellement.
Voilà, il y en a qui arrivent bien. Encore une fois, c'est pas facile, on n'est pas sur la glace. Ouais. Mais là, il y avait peut-être un coup de trop de Julien parce que l'action était terminée. Et il fallait peut-être passer à autre chose. Et ça montre justement que Gauthieron n'était pas vraiment prêt à affronter ce Lugano-là.
Et en plus, c'était le début du match 3. Il y a 2-0 dans la série. Il y a 0-0. Donc, il n'y a pas non plus une urgence et une frustration extrême qui devait être présente à ce moment-là. Donc, c'est vrai que ce premier tiers peut être un peu surprenant, sachant que Fribourg avait quand même à ce moment-là toutes les cartes en main et devait tout pour être tranquille. Et ce qui m'a aussi surpris, c'est que en fait Lugano est pas vraiment resté dans ce registre par la suite.
Oui.
Ils ont tout d'un coup, ils ont baissé leur niveau
d'intensité. Oui, mais Fribourg déjoué à ce moment-là. On n'a pas retrouvé quand même. Même si Fribourg a fait deux bons derniers tiers, c'était plus tout à fait le même Fribourg d'avant, parce qu'il y a un certain doute qui s'est quand même insinué dans l'esprit. Ça, c'est évident, ça s'est vu. Certaines choses qu'ils faisaient facilement, ils l'ont quand même fait moins bien ou moins rapidement. Et Fribourg a beaucoup souffert de son premier tiers. Il a traîné durant toute la partie, j'ai l'impression, l'image, le souvenir d'un premier tiers où pour la première fois de la saison, on a vraiment retrouvé un grain de sable dans sa mécanique. Pour moi, c'est vraiment le premier grain de sable de la saison.
Ce qui est un peu, pas étonnant, mais peut-être même, je dirais, inquiétant, c'est que ce Lugano, il a des ressources et on voit qu'il est capable de modifier sa façon de jouer, d'appréhender les matchs. On pouvait penser que Gianni Nazzi faisait un peu n'importe quoi au tout début de la série, mais finalement, il teste différentes choses et puis il a peut-être trouvé la bonne formule maintenant. On a vu le premier match en titularisant Kenville à la place de Rotsalainen. C'était pas forcément attendu. Après, il y avait Koskinen. Il voit que ça marche pas. Il change avec Schlegel qui a fait un bon match. On verra si ça tient. Mais cet aspect-là, on voit que Lugano a des ressources et tente des choses. C'est peut-être dans sa position à 2-0, il faut tenter.
Ils ont assez de surnuméraires pour tenter des choses aussi. Et puis le retour de Schlegel, il était logique après les deux premiers matchs quand même très moyens de Koskinen, ce qui a permis d'étoffer un petit peu l'attaque de Lugano. Après ce changement-là, le retour de Kenville dans l'alignement, finalement, il a presque failli causer la perte de Lugano, mais c'est vrai que Schlegel fait un grand match. Et puis il a, je pense, aussi gagné son duel à distance avec Berra sur ce match, même si on ne peut pas imputer la défaite à Berra. Mais Schlegel facteur X sur cet acte 3.
Luca Gianni Nazzi, c'est un entraîneur moderne. C'est-à-dire qu'il sait réagir. aucune critique contre Marc Crawford. Il paraît que j'aime pas les anciens entraîneurs de NHL, c'est pas vrai. Luca Giannini, au contraire d'un Crawford, par exemple, est capable de changer sa stratégie, même en cours de match. Là, en fait, il change sa stratégie de match en match. Effectivement, il y a la titularisation de Schlegel, il y a Kenville, retour de Ruotsalainen. Et également, dans le système de jeu, il y a des choses qui ont changé. Si on prend l'exemple de la supériorité numérique luganaise hier, il a quand même réussi à faire cette supériorité à 5 contre 3, puis à 5 contre 4, avec 5 attaquants. Les 5 Luganais étaient des attaquants, en jouant très très haut, beaucoup plus haut encore que d'habitude, et ça a considérablement gêné Gauthieron. Donc ça veut dire qu'il tente des choses. D'habitude, on tente ça hors match qui compte, mais lui, bon, bah, il n'a pas le choix aujourd'hui, il doit le faire, mais j'ai l'impression qu'il a de plus en plus de certitude, et moi je serais prêt à parier qu'il va continuer avec Schlegel, avec ses 6 étrangers, avec ses 6 étrangers en joueurs de champ, sans les Montandon, malheureusement pour eux, parce que effectivement, hier, Lugano était convaincant. La prochaine étape, s'il doit changer quelque chose, et je ne sais pas s'il changera quelque chose pour le match numéro 4, c'est de casser son premier bloc et de mettre Turkovka dans des blocs différents, par exemple. Ça, c'est encore la dernière évolution qui lui serait permise pour encore essayer de faire rebondir la partie. Donc ça veut dire que pour moi, le match numéro 4 sera le match crucial de cette série.
Ouais, ce 5 contre 3 que tu évoques, il a quand même été quand même difficile pour Lugano. Il marque après à 5 contre 4, mais pas forcément sur un vrai jeu de power play. Si je me rappelle bien, Berti à la bande qui tergiverse un petit peu et puis Fadini récupère le puck. Lugano a encore de la peine en power play, donc ils sont pas forcément guéris.
Mais il y a un vrai potentiel quand même. Quand on retrouve 5 attaquants sur un power play et qu'on joue encore plus haut que la normale, parce que si vous regardez bien le positionnement des joueurs, ils ont joué extrêmement haut. Ça a un peu surpris quand même Fribourg, et à un moment donné, ça ne peut que payer. Effectivement, ça n'a pas encore été la panacée hier, mais ça va venir. C'est certain, ça va venir.
On peut imaginer que Canville va pas rejouer, suspension, pas suspension. Il sera probablement aussi surnuméraire s'il peut jouer. On peut penser que l'Aleggia va revenir dans l'alignement. Il y a encore Mario Kempe en attaque, mais je crois qu'il n'a pas forcément fait grande impression.
Mais l'Aleggia non plus. Cette saison, c'est quand même une déception. Donc, c'est délicat.
Je ne pense pas qu'il va revenir. Mais les nouvelles de Lugano, en tout cas, l'Aleggia, ça fait un moment qu'il est un peu. Ah, s'ils n'ont que 5 étrangers, tu dis.
Et si Bernd Wolf ne peut pas jouer.
Ouais, c'est vrai, ça fait beaucoup de si, mais effectivement, l'Aleggia peut-être plus que Kempe. Kempe, je crois qu'il s'entraîne même pas à Lugano, il est juste dans l'effectif. Mm-hmm. Mais on m'a dit que. Enfin, les journalistes tessinois m'ont dit qu'il n'était pas souvent sur la glace. Mm-hmm. Mais on n'est pas au bout de nos surprises parce que tu parles de casser cette première ligne, Philippe, c'est vrai que ça peut être une option.
Je crois que c'est la dernière option, en fait.
Mais est-ce que c'est un signe d'intelligence de dire, ben voilà, ma première ligne est bien matchée par Gauthieron, on arrive, elle est plus aussi productive qu'en championnat. Donc je change, je tente des choses, ou c'est quand même un aveu de faiblesse de dire je trouve pas de solution et je change tout, j'ai pas de certitude finalement en face. Gauthieron, depuis le début de la saison, a ses certitudes, a ses lignes et croit en son jeu. À quel point en playoff, c'est.
Bon, mercredi, il y avait du mieux dans la manche numéro 3 quand même de la part de ce premier bloc.
Ils ont tourné autour de Valzer, Marchand et Jörg bien quelques fois.
Absolument, il y a quand même du mieux. Maintenant, je pense pas que c'est le moment justement de casser cette ligne. Ça reste pour moi l'ultime recours si par hasard Gauthieron.
Tu gardes ça au fond de ta poche.
Non mais moi
comme
je pense que c'est
ton petit papier là.
Non mais c'est pour à mon âge, encore une fois, quand on a des idées, on les écrit parce qu'on les oublie très vite. Non mais simplement, je pense que Giannini a dit. Pour le connaître un petit peu, ne va pas encore changer son premier bloc. Si Gauthieron venait à mener 3-1 dans la série, il va tenter quelque chose, c'est clair. Et il va casser son premier bloc. Mais je ne pense pas encore pour le match numéro 4.
On va parler de ce match numéro 4 un peu plus tard. On parlait du power play de Lugano. Celui de Fribourg a quand même manqué une belle occasion là, quand il y a eu les 5 minutes entre la fin du deuxième tiers et le début du troisième, les 5 minutes à Canville, c'était un peu l'occasion en or pour Gauthieron de reprendre l'avantage, parce qu'on a parlé de l'ouverture du score de Lugano comme quelque chose de normal, mais c'était la première fois que Lugano aussi prenait l'avantage, et on voit que ça change la dynamique quand Gauthieron mène au score. C'est une équipe difficile à jouer après Gauthieron. Et...
Ouais, sur le power play, globalement, Gauthieron a été mauvais dans cet exercice mercredi soir. Il y a un éclair de génie là au milieu, il y a cette triangulation avec le but de Di Domenico qui c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais c'est vrai que Lugano a aussi changé sa façon de jouer sur le box-play. Ça avait été bien mis en lumière, notamment aussi sur le plateau de MySports lors du match de lundi, où Lugano était très, très agressif sur le porteur du puck et puis pas forcément bien organisé derrière. Et alors là, il jouait plus regroupé, peut-être un peu plus bas. Ça a davantage gêné Fribourg. Et puis c'est vrai qu'il y a eu quand même... On parlait de l'indiscipline de Gauthieron qui avait peut-être répondu d'une manière un peu trop agressive. Lugano aussi était énormément pénalisé, notamment dans le deuxième tiers. Et Fribourg aurait pu s'en sortir si son powerplay avait été à la hauteur de ce qu'il a été jusqu'à maintenant cette saison.
Ouais, mais c'est vrai qu'il faut laisser aux Luganais le fait qu'ils ont un excellent boxplay, effectivement, maintenant. Ça n'a pas été le cas toute la saison, mais là, le boxplay, ils ont une excellente gestion dans leur tiers défensif aujourd'hui. C'est ce que j'ai trouvé hier. Fribourg a finalement pas été mis sous les ténoirs, mais Fribourg a quand même eu moins de possibilités clair par rapport aux deux premiers matchs de faire la différence, de marquer simplement. Et la gestion luganaise dans le tiers défensif a gagné en intensité, ça c'est clair. Et ça va poser encore des problèmes. Si Lugano continue sur le même rythme, ça va poser des problèmes. Attention, pas de panique. J'ai pas dit que Lugano allait devenir meilleur que Fribourg, encore une fois, parce qu'on va leur pure. Pour moi, il n'y a pas photo. Mais au niveau de l'envie, au niveau de l'organisation générale, surtout de l'application stricte de ce que demande Gianni Nasi, Lugano a fait un pas en avant.
Lugano est bien organisé. Quand le jeu est posé avec la vitesse de Gauthieron, il y a quand même pas mal de difficultés pour Lugano. On l'a vu sur les deux premiers matchs. C'est peut-être ça qu'il faut retrouver. Même un Berchi qui marque pas, mais il pèse beaucoup. Et quand il accélère, on voit que défensivement, ben Lugano, Tennyson, il manque un peu, encore un peu de rythme. Hein. Il n'a pas beaucoup joué à la Talo et je vais trouver son nom, l'autre défenseur offensif.
Anderson,
merci beaucoup. Voilà, ils ont de la peine un peu à suivre le rythme. Quand Gauthieron vraiment met de la vitesse, c'est compliqué pour eux. Après, c'est vrai que quand le jeu est posé, il y a un impact physique quand même, notamment avec Mirko Müller et tout ça, qui permet à Lugano qui joue des fois très simplement, hein, aussi plus simplement, et qui se pose pas de questions.
Ouais. Mais en fait, hier, ce qui a manqué à Fribourg, finalement, sont des buts, parce que Fribourg aurait pu aussi gagner ce match. Ce qu'il faut laisser à Gauthieron, ils sont toujours excellents en transition. Ils arrivent toujours à accélérer le jeu. Ils arrivent entre la récupération du puck et la première passe vers l'avant. Ils sont quasi inégalables cette saison, mis à part peut-être avec Zurich. Et ça, ils le gardent. Et ça, c'est bon signe. Simplement, il faut pouvoir marquer. On partira du principe qu'hier, ils ont eu un peu moins de réussite. Moi, ce qui m'a aussi plu hier, et on n'en parle quasiment plus de ce bonhomme-là depuis quelques temps, parce qu'il y a l'émergence de Valmark, il y a Sorensen et compagnie, il y a De La Rose qui commence gentiment, je veux dire, à revenir dans des situations qui sont cruciales. Et ça, je trouve que c'est un bon point. Et De La Rose, on n'a pas beaucoup parlé. Je pense que dans les matchs suivants, on va reparler un petit peu plus souvent de lui.
Il a plus marqué depuis 19 matchs.
Oui, c'est ça.
Ouais,
il doit avoir fait 4 points.
Je suis pas sûr, mais...
Je crois qu'il a fait 4 points sur les 16 derniers matchs.
Ouais, alors qu'à un moment donné, durant l'hiver, je
sens les prémices d'un retour de Dollaro sur un certain nombre de... Je ne pourrais pas vous donner des exemples comme ça, mais sur quelques actions, particulièrement hier, j'ai retrouvé le Dollaro que j'avais redécouvert il y a 2 ou 3 ans en Champions Hockey League, et ça m'avait réjoui d'ailleurs à l'époque que Gauthieron l'ait engagé, parce que pour moi, c'est un joueur majeur. Là, il est un petit peu en retrait par rapport aux autres, mais il fait quand même un gros boulot, et moi, je sens que Dollaro va gentiment venir maintenant.
Ça, c'est l'instinct d'une personne qui passe beaucoup de temps sous l'hôtel de La Rose.
Exactement. Oui, parce que il faut quand même expliquer que le strap, c'est sous l'hôtel de La Rose, voilà. On va le dire.
Attends, t'en rates pas une. Ouais, c'est bien. De La Rose aussi qui était précieux lundi à Lugano, parce que Christian Dubé n'a pas le choix de la ligne, et il s'est retrouvé un peu plus régulièrement face à la première ligne adverse quand Valzer pouvait pas être là, et du coup on voit que il s'acquitte parfaitement.
Il est là, il s'acquitte de sa tâche, c'est ça.
Mais elle me plaît pas mal, cette ligne, malgré le fait qu'elle marque pas, ou peu.
Didot est bon aussi.
Didot est très bon. Il a réussi à augmenter son, son niveau de jeu, sa qualité de
percussion. Il a été à deux doigts de péter les plombs hier soir, hein. À deux reprises, là, je me suis dit, oula, ça y est, il est chaud.
Mais il est toujours à deux doigts de péter les plombs.
Mais, ouais, mais là, hier soir particulièrement, et en fait, il tient le coup. J'espère que ça va continuer comme ça, parce qu'un Dido comme ça, c'est un joyau incroyable, quoi. Ouais.
Contrairement à un autre bonhomme, on a retardé cette thématique le plus longtemps possible en espérant.
Ouais, c'est jeudi matin quand on enregistre, faut dire ça, et ouais. On attend le communiqué de la Ligue, mais pour l'instant...
Concernant Sorensen.
Voilà. Mm. Bon, c'est le moment d'en parler quand même, je crois.
Toujours pas de communiqué, donc.
Toujours pas de communiqué, là, un petit check, là, dernier. Ouais. Avant, il y avait
donc
rien.
On va faire une discussion fiction, ouais, bon. Mais bah voilà, l'intérêt, c'est de donner son avis par rapport à cette situation, donc...
Rappel des faits, Lugano marque au début de la prolongation par Ruotsalainen. Tout le monde, tous les Luganais sortent du banc pour aller féliciter le buteur. Il y a Bernd Wolf qui est lui sur la glace, qui a un assist d'ailleurs sur ce but, je crois, qui veut aussi lui aller vers Ruotsalainen. Et puis il y a Markus Sorensen qui croise son chemin et qui, en tout cas, vu les images, sort un petit peu la jambe. Et il y a un contact visiblement pied contre pied. Je pense pas qu'on est sur du genou contre genou, mais il lui fait un croche-patte quand même. Bernd Wolf s'écroule, reste à terre, tous les Luganais vont se montrer à Sorensen qui sont pas très contents. Et puis Wolf après a quitté la glace accompagné du staff médical. Il a boité bien bas jusqu'au vestiaire. Alors soit il est très très bon comédien, soit il a très très mal. Le médecin disait à Gianni Nazzi, je suis passé à côté au même moment, que c'était le genou. It looks ugly, il a dit. Ça avait l'air pas beau. Pour la traduction.
Rien.
Et voilà, en fait, il n'y a pas eu de pénalité sur le moment. Il faut dire que le match était terminé. Mais on peut imaginer que le juge unique va passer par là. En tout cas, moi, j'ai de la peine à me dire qu'il va s'en sortir sans rien.
Les images ont été transmises cette nuit.
Ah.
Donc,
deuxième scoop.
Mais elles ont été transmises.
À qui de droit, ouais. Voilà.
D'accord.
Mais elles sont déjà revenues du Canada ou pas encore?
C'est ça. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup la nuit. C'est ça l'avantage avec le championnat de Suisse, c'est qu'il y a le décalage horaire.
Ouais. Ah, donc, rappelle, c'est le Player Safety Officer qui va analyser ces images, donc qui travaille au Canada et qui décide si oui ou non il y a l'ouverture d'une enquête.
Oui, et ensuite c'est le.
Et c'est pour ça que souvent on a les décisions le matin.
Exactement.
Quand on se lève, on sait déjà ce qui s'est passé la veille au soir.
Toujours
si
entre 8, 9, 10 heures.
Ouais. Bon, Philippe, toi, ce qui est à charge un peu de Sorensen, c'est que c'est une fois que le match est terminé, ça, en tout cas, ça va pas l'aider à défendre son cas. Ça, c'est quand même anti-sportif.
Je sais
à
pas,
un moment
alors,
donné.
Alors,
ou...
vous voulez que je vous donne l'avis du Fribourgeois ou bien l'avis du Tessinois?
Bah, donne-nous ton avis.
L'avis de l'analyste neutre.
Bah, non, en fait, le supporter tessinois, il aura vu un geste pas normal. Le supporter fribourgeois, il aura vu un contact qui est banal. Maintenant, je pense qu'effectivement, on n'a pas non plus besoin de continuer à se provoquer après le coup de sirène final, parce que c'est purement de la provocation, voire même peut-être un peu de frustration. Je sais pas. Effectivement, le fait de perdre comme ça, on peut comprendre que Fribourg a été frustré. Ça, c'est clair. Maintenant... Oui, il y a un mouvement avec la jambe, il y a quelque chose, et normalement ça ne devrait pas arriver, même si c'est en dehors du jeu, ça il faut bien être clair, effectivement, c'est aussi répréhensible et c'est aussi punissable. Donc de toute façon, je pense qu'il enfin, une procédure il y a, il va y avoir, et je pense que... Moi, je pense qu'il va y avoir une décision contre Sorensen. Moi, je pense quand même. Au même titre que Sprunger. En fait, c'est plus délicat pour Sorensen qu'avec Sprunger. Sprunger, c'est différent. Il y a pas. Il y a aussi. Il faut aussi voir qu'il y a la réputation du bonhomme. Et on sait que Sprunger, qui lui-même a bien souffert de coups de canne dans la nuque ou comme ça ou à la tête, c'est pas vraiment son objectif d'avoir de vouloir donner un coup de canne.
Mais des fois, par maladresse.
Mais par maladresse. Mais voilà, c'est pas mal. Alors c'est ce que je veux dire, c'est que
Sprunger,
c'est malade. On le sait, on le voit, c'est maladroit. Sorensen, c'est pas maladroit.
C'est vicieux.
Ça peut être vicieux. Voilà, exactement. Voilà, maintenant, si on se place du côté du supporter fribourgeois, encore une fois, on se dit, bon, ben voilà, le nombre de fois où il y a des accrochages dans ce style, en plein match, pendant les arrêts de jeu, simplement, et où ça se passe bien, où il y a des accrochages et l'adversaire, il ne se roule pas au sol en se tenant le genou, Effectivement, même en tant que patron d'un comedy club, j'aurais de la peine à dire si Bernd Wolf est un bon acteur ou pas, quoi.
Mais est-ce que ça t'a fait rigoler ?
Ah, ça m'a pas fait rire du tout. Donc c'est bien pour ça que ça, j'ai un peu peur quand même pour Sorensen.
C'est un geste dangereux quand même.
Oui.
D'ouvrir la jambe comme ça quand ouais. t'as un joueur qui regarde pas, qui le voit pas arriver en dehors du jeu. Franchement, il a aucune circonstance atténuante. Moi, je crains.
Maintenant,
je
tu crains. Ouvres la jambe aussi. Ça peut être aussi un geste de protection. Tu vois là, l'impact arriver, et puis pour éviter justement un choc plus violent, tu bouges.
Là, c'est trop.
Voilà. On est vraiment dans la zone grise, quoi.
Il faudra voir si c'est classé en catégorie 1 ou 2.
Ouais.
Ouais. 1, on rappelle, c'est 1 ou 2 matchs de suspension. Et puis en 2, c'est entre 3 et 5.
Entre 2 et 4, je crois, non ?
Ouais. Oui.
Enfin, de toute façon, ça pourrait signifier d'ici la fin de la série, quoi. Donc,
et imaginons qu'il ne soit pas suspendu, l'accueil de la Rezega pour Sorensen, ce serait quand même quelque chose aussi d'handicapant pour lui, pour Götteron. Dans tous les cas, c'était vraiment un geste à ne pas faire et qui va causer du tort à Götteron.
Bon, l'accueil de la BCF Arena pour Kenville, s'il n'est pas puni, ça sera un peu dans le même style aussi, hein. Donc
justement, j'allais dire, est-ce que vous êtes prêt à mettre votre réputation en jeu et me dire qui mérite plus une sanction entre Sprunger, Kenville et Sorensen ?
Sorensen.
Il l'a dit. je pense que sur le s'il y a vraiment un acte volontaire, c'est vicieux et ça, on doit réprimer. Ouais.
Bon, on va se retrouver après 25 minutes de podcast à imaginer la vie de Götteron sans Sorensen pour l'acte 4, donc, puisque tout le monde a l'air d'accord.
Ce qui est un peu risqué, parce que admettons qu'il n'y ait pas finalement pas d'ouverture.
Ce que j'espère, c'est que chaque cas soit jugé séparément et non pas que ça s'équilibre dans l'ensemble. Voilà, qu'on nous signale que voilà, lui va être suspendu, lui pas, mais lui un petit peu pour essayer d'équilibrer tout ça. C'est ça ma crainte. Prenons chaque cas individuellement. Et puis bon, là, si Fribourg doit en subir les conséquences, il faudra l'accepter. Et si on veut devenir champion, on doit être aussi capable de jouer sans un ou deux leaders. Mais bon, ça, c'est de la musique d'avenir.
J'ai écrit hier à Stéphane Rochette pour avoir son avis sur Sorensen. Il disait qu'il ne savait pas trop comment juger cette scène-là. Il était aussi un petit peu emprunté. Mais c'est vrai qu'après, il a regardé les images et il se disait, je ne vois pas comment il ne pourrait pas être sanctionné. Mais par rapport à Sprunger, il disait qu'il pensait que Sprunger allait avoir 3 matchs. Parce que c'est un petit peu la même faute que son fils, qu'il avait fait ça avec Lausanne il y a quelques mois, et il avait pris 3 matchs. Si je me rappelle bien du geste de Rochette, c'était quand même presque plus revanchard et puis plus net quand même le cross-check. Donc,
puis il y avait eu arrêt de jeu, je crois. Le gardien venait de bloquer le puck et il était face au joueur. Moi, je trouve que c'est pas tout à fait pareil, quoi. Après, si c'est juste canne au visage, enfin cross-check dans la nuque ou au cou.
Mais c'est vrai
visage,
qu'on peut se dire Sprunger, il donne déjà un bon cross-check au niveau de la taille.
Ouais.
C'est bon, ça suffit. Voilà, t'as marqué ton territoire. Et puis là, il continue. Et c'est le fait de continuer qui pose problème, quoi.
Un match pour Sprunger, 2 pour Kenville, 3 pour Sorensen.
Ah toi tu fais que ça à la louche. Allez, on va pas rentrer dans le pronostic des matchs, mais bon, on est tous d'accord que normalement Sorensen aura de la peine à passer entre les gouttes, et on est tous d'accord pour dire que le plus dommageable pour les deux équipes, c'est quand même, enfin c'est l'absence de Sorensen. Lugano n'a pas besoin de Kenville et Sprunger peut être remplacé à Götteron. C'est pas la fin du monde. Bon, sans Sorensen, qu'est-ce qui se passe du coup? Valmark est orphelin. Est-ce que ça change tout?
Ça change pas tout, mais ça change beaucoup de choses quand même, parce que c'est l'un des deux meilleurs joueurs de Götteron. On l'a vu sur ses 3 premiers matchs, chaque fois que lui et Wallmark sont sur la glace, il y a quand même quelque chose qui se passe. On sait que ça peut être but, donc ce sera forcément une grosse perte. Et puis comment le remplacer aussi, c'est la question. Fribourg à Corey Emerton, si on veut vraiment faire du poste pour poste en attaque, et c'est pas le même genre de joueur. C'est un joueur qui a passé toute la saison en Swiss League. C'est pas un joueur qui a beaucoup de génie, c'est plutôt un.
Ouais, mais il faut pas se méprendre sur la valeur d'Emerton. Emerton peut aussi apporter pas mal. C'est clair, c'est pas Sorensen. Mais dans sa manière de jouer, même s'il a passé la saison en Swiss League, franchement, il sera au niveau, je pense. Je sais pas si vous l'aviez dit ou écrit ces dernières semaines ou ces derniers mois, mais c'est clair que la paire Valmark-Sorensen, on n'a pas eu une paire aussi complémentaire, aussi efficace depuis l'époque Bykov-Komutov, quoi. Rappelez-vous, quand il y avait Bykov ou Komutov, un des deux blessé ou absent, ça tournait plus tout à fait de la même manière. On n'avait jamais trouvé vraiment la solution pour compenser l'absence de celui qui était blessé. Ça va être un peu le même problème, ça c'est clair. Donc de toute façon, problème il y aura si Sorensen est suspendu. Maintenant, Emerton, c'est marrant à dire, mais c'est un peu un couteau suisse. Hein. On l'a vu avec Lausanne, on l'a vu avec Sierre. Même si c'est un niveau différent, c'est un gars qui pourra apporter beaucoup. Il y aura beaucoup d'énergie avec lui. Ça, c'est déjà un bon premier point. Il faudra trouver une certaine complémentarité avec Valmark, mais on a vu aussi que Valmark, individuellement, même sans Sorensen, parce qu'il n'y a pas que la paire Valmark-Sorensen, Valmark qui travaille aussi beaucoup avec les autres. Les autres travaillent beaucoup pour lui. Ça peut marcher. Hein.
Si Emerton entre en jeu, là, on pourra peut-être assister aussi à des paires, des trios qui vont être éclatés.
C'est ça.
Peut-être qu'on n'aura pas du poste pour poste Sorensen-Emerton.
Absolument. Emerton plutôt au centre, quand même. C'est aussi ça.
Mais qui peut jouer à l'aile.
Et c'est pas tout à fait par hasard que je vous parlais tout à l'heure de Jacob Delarose, qui va revenir au premier plan, je pense. Dans quel alignement, je ne sais pas, mais je pense qu'il va prendre de l'importance maintenant dans le jeu de Fribourg.
Après, quel est l'intérêt aussi de tout modifier? Est-ce qu'il ne faut pas juste remplacer Sorensen pour éviter de déséquilibrer les autres lignes?
Moi, je partirais sur le poste, effectivement. Moi, je partirais avec Emerton. Finalement, si on engage Emerton, il faut bien une justification. Là, elle serait parfaite. Hein.
Après, je demande à voir, mais c'est vrai que Swiss League et National League, on a vu avec les frères Montandon, c'est quand même une sacrée différence de rythme.
Bon, ils ont joué 3 minutes par match. C'est difficile de juger.
Mais non, ça se voit quand même, je trouve.
T'as vu Arnaud Montandon, tu as vu toucher beaucoup de pucks.
C'est pas pour rien qu'il en touchait peu, en fait.
Alors, je te trouve dur.
Emerton, je l'ai vu contre Berne. Il a joué contre Berne, mais on l'a pas beaucoup vu. Alors, c'était un dernier match et tout ça. Et puis, il a pas joué depuis quelques jours. Donc, la question du rythme, elle est claire. Après, la vitesse, je l'ai à peine à juger, mais ça, c'est quand même monté en intensité. Et je pense que ce sera. Je doute qu'Emerton fasse la différence dès vendredi, s'il doit jouer vendredi. Ouais. Après, peut-être que, évidemment, c'est mieux que rien. Et heureusement qu'il est là, puisque. Dans ce cas-là, s'il faut remplacer un joueur étranger, y a au moins quelqu'un à disposition et c'est mieux Emerton que Grégoire, je pense.
Bon, c'est vrai que Emerton a aussi été engagé à Fribourg. Je vous parlais d'un couteau suisse. N'oubliez pas qu'on a aussi beaucoup parlé du banc très court au niveau défensif du côté de Fribourg et qu'Emerton est capable aussi, c'était peut-être aussi une des raisons principales de son engagement, de jouer en défense, s'il le fallait. D'ailleurs, on se souvient que lorsqu'il avait joué en défense avec Lausanne, il avait éclaté tout le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait eu cette période incroyable, lui avait marqué, etc. Et en fait, peut-être qu'effectivement, dans la première intention de Christian Dubé, c'était d'engager Emerton pour être justement sur un match, le couteau suisse, pour remplacer, avant de trouver une autre solution. Sauf que là, il n'y a plus de solution à trouver, puisqu'il n'y a plus de transfert possible. Donc là, vraiment, maintenant, on est, s'il engage Emerton, c'est vraiment pour lui attribuer une place fixe en attaque. Et il n'est plus question du couteau suisse, justement. Et a priori, c'est vrai qu'Emerton est un très bon joueur, mais avec aussi des qualités défensives. Et effectivement, c'est vrai qu'on peut se poser la question si ce serait le bon poste pour poste pour, à la place de Sorensen. Ça serait même quelque chose d'assez inattendu. Hein. Ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Mais encore une fois, moi je suis comme ça. Moi, je suis un optimiste, un éternel optimiste. Et moi, je crois en Emerton. Voilà.
Psychologiquement, quand même, de perdre... Perdre Sorensen, si ça devait être le cas, ça serait aussi difficile quand même pour Fribourg. Gros coup dur, au-delà aussi de ce qu'il apporte dans le jeu.
Ah, c'est clair, et puis on voit qu'il a un énorme rôle aussi en powerplay. Ça désorganise beaucoup de choses. Après, comme tous les coachs le disent à chaque occasion, c'est à d'autres de prendre leur lait, de montrer. Mais c'est vrai que Gauthieron a peu de marge de manœuvre, a peu de solutions. Et si en plus il y a Sprunger qui manque, ça fait deux attaquants à vocation très offensive qu'il faut remplacer et il n'y a pas les moyens de les remplacer au niveau du talent et de l'impact que ça peut avoir. Donc après, ça va modifier un peu le style de jeu. Il faudra encore plus être clinique devant le but adverse et profiter de chaque occasion parce qu'il n'y aura plus l'éclair de génie de Sorensen à un moment donné avec Valmark qui nous combine une petite action sortie de leur chapeau. Donc ça pourrait bien changer de toute manière avec Sorensen ou pas, puisque nous n'avons toujours pas la réponse, n'est-ce pas Pierre? Qui contrôle son...
On a reçu un communiqué, mais de Fribourg Olympique.
Bon. Ça concerne pas Sorensen.
Non, les dates des cartes finales des playoffs.
tu veux les donner. Il y a aussi des cartes finales des playoffs la semaine prochaine, effectivement.
Ouais. Mercredi 27 mars pour l'acte 1.
Si voilà. Ouais. Merci. Ouais.
Bah, comme il n'y a plus de place au hockey, allez voir le basket.
C'est l'occasion. Parlons de cet acte 4 donc, qui aura lieu à la Resega, pardon, à la Corner Arena, il faut dire maintenant. Ouais. On nous écoute.
On se fait taper sur les doigts.
Donc au Tessin, dans une patinoire qui était déjà assez chaude lundi, mais qui risque d'être encore un peu plus ce vendredi. Gauthieron mène toujours 2-1. Philippe, tu l'as dit, on est d'accord. Je crois que Gauthieron reste meilleur sur le papier à des arguments. À sans Sorensen, pour toi, c'est plus...
Bah, Fribourg est plus vraiment au-dessus sans Sorensen, je trouve. Ça s'équilibre méchamment.
Vous êtes en train de parler de l'absence d'un seul joueur qui fait qu'une équipe ne peut plus devenir éligible pour devenir championne de Suisse. Moi, ça, je ne suis pas d'accord. Encore une fois, je suis un éternel optimiste, comme je disais. Alors d'accord, c'est embêtant, c'est très embêtant que Sorensen ne puisse éventuellement pas jouer ces matchs-là. Mais quand on a de hautes ambitions, on doit être quand même capable de surmonter l'absence d'un grand joueur.
Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas le surmonter. Ils peuvent passer en demi-finale sans Sorensen. Ouais. Mais ça équilibre quand même ça équilibre les débats. Parce que Fribourg est quand même ultra dépendant de son duo Hallmark Sorensen.
Actuellement, oui, c'est vrai.
Reste que ce match 4, je le disais, Gauthieron devra faire face à la pression du public tessinois aussi. Est-ce qu'il y a une approche du match différente, une façon d'aborder? Notamment, on peut imaginer qu'au niveau de la gestion des émotions, il y aura quand même l'accent qui sera mis là-dessus, parce que ça a quand même manqué, on l'a dit, lors de l'acte 3. C'est à ce niveau-là que Gauthieron doit être irréprochable. Dubé le disait, à 5 contre 5, Gauthieron est une bonne équipe, une très bonne équipe même. Mmh. Donc c'est important de ne pas aller trop souvent au cachot.
Ah bah c'est clair que si on doit reprocher quelque chose à Fribourg lors du match de mercredi, c'est son nombre de pénalités incroyables. Mais encore une fois, ils ont mal réagi. Ils ont été pour la première fois de la saison dans une situation qu'ils ne connaissaient pas. On va dire qu'ils sont partis à la découverte. Si vous avez plus vu jouer Fribourg que moi, parce que moi j'ai suivi un petit peu toutes les équipes. Mais moi, l'impression que j'ai de Gauthieron, c'est que, je vais pas dire que c'était un long fleuve tranquille, mais Gauthieron avait son style, prenait son temps pour remporter ou pas de temps en temps une rencontre. Mais Gauthieron n'a jamais vraiment eu des fluctuations dans son rythme. Et dans Gauthieron, sur la longueur, s'imposait sans avoir besoin de ressortir deux ou trois petites choses spéciales. Aujourd'hui, c'est différent. C'est, comme je le disais, je pense que c'est le premier grain de sable dans la machine. Là, pour la première fois, il y a un vrai problème qui se pose à Fribourg. Eh ben, quand on a des ambitions, on doit être capable de le résoudre. Alors maintenant, l'ambiance à Lugano. Personnellement, ça me plairait beaucoup moins d'aller du côté, par exemple, de Langnau, où on sort les casseroles, où on sort les choses comme ça, et ça avait pas mal déstabilisé les Fribourgeois aussi. À Lugano, je vous rappelle quand même que même si tout à coup les supporters tessinois y croient, il y avait à peine 6000 spectateurs lors du premier match.
Mais ça fait du bruit.
Ça fait du bruit, mais enfin, c'est pas encore ça.
Et là, puis, ça sera plein.
Et ça sera, ouais, là, ça sera plein, ça c'est clair.
Soir.
Mais en même temps, si vous n'êtes pas capable, alors ça, c'est quand même quelque chose, moi, personnellement, ça m'a toujours fait sourire. Flûte, quoi. Vous êtes des professionnels, vous êtes quand même capable de jouer dans des contextes qui sont horribles. Alors, je suis d'accord, ça sera pas facile à Lugano, mais je pense que pour les Luganais, c'est quand même pas facile non plus de venir dans l'ambiance de la BCF Arena. C'est pas facile d'aller jouer à la PostFinance Arena. C'est pas, voilà. Donc, ça, pour moi, c'est pas un argument. L'argument du public, bien sûr, je trouve plus important de savoir gérer ses émotions par rapport à ce qui se passe sur la glace, mais pas par rapport à ce qui vient des gradins. Voilà. Et ça, c'est mon avis. Voilà. Et donc, je pense que l'ambiance, bien sûr, elle sera chaude, mais ce n'est pas l'élément déterminant. L'élément déterminant, encore une fois, c'est comment Fribourg va évoluer sur la glace, face à un adversaire sur la glace. Après, qu'il y ait du bruit ou pas.
Mais ma question était liée au contexte, justement. Alors, je parlais du public, mais s'il y a le public
qui est derrière, Lugano, par
ça va pousser. Lugano va sans doute pas changer tellement son style, puisque ça a marché au match 3. Ils vont rentrer très très fort dans ce match 4. Tu disais, grain de sable, Gauthieron a découvert quelque chose de nouveau, peut-être.
Bah oui, d'être mené au score dans une série.
Voilà. Mais est-ce qu'il a appris en si peu de temps? Est-ce qu'il peut apprendre? Ou est-ce que ça va le déstabiliser à nouveau? Est-ce que ça peut poser problème? Est-ce que ce style de jeu ne convient pas bien à Gauthieron, et Lugano va forcément, on peut imaginer, l'exploiter? Est-ce que Gauthieron sera capable de...
Bah, je pense que Fribourg a appris. Après, Ça sera la question centrale, c'est de savoir si Lugano pourra être au même niveau qu'il l'a été mercredi, parce que là finalement on avait un vrai match de play-off avec deux équipes qui étaient très proches. Je vais dire une phrase tout à fait bateau, mais je pense que la première équipe qui marquera vendredi aura un gros avantage sur la suite, parce que Lugano, ils pourront jouer avec leur public et tout, il y aura une sorte d'euphorie qui va se créer, ils seront dans la continuité de ce qu'ils ont fait mercredi. Et puis si Fribourg est capable d'éteindre le feu de la Rezega d'entrée, ils reprennent un ascendant psychologique. Donc là, je pense que cette phrase bateau a du sens pour une fois.
Et c'est ce que je voulais dire. En fait, pour la première fois, Gautheron s'est retrouvé mené au score dans la série, si je ne me trompe pas. Ils ont toujours mené. Hein. Et c'est vrai que ça change la donne. Ça a donné un courage et un moral d'enfer aux Luganais. Et je regardais encore aujourd'hui les déclarations dans la presse tessinoise ce matin, avant d'arriver ici. Je regardais encore les déclarations des joueurs luganais après ce match. Ils sont tous remontés comme des pendules maintenant. Hein. Donc ça va venir très très fort. Et justement, je pense que Gautheron doit être capable aujourd'hui, doit avoir retenu la leçon de ce match numéro 3 et de ne pas répondre coup pour coup, entre guillemets. Il faut accepter finalement de prendre les coups sans répondre. C'est aussi ça, hein, les playoffs. Et tu prends les coups, tu réponds pas, finalement c'est l'adversaire qui se pénalise tout seul. Et c'est ce qui pourrait arriver si Fribourg arrive à garder la tête froide. Ils n'ont pas réussi à garder la tête froide sur la manche numéro 3.
Mais Lugano a aussi quand même craqué bon nombre de fois. Je trouvais que c'était finalement des écarts de conduite à gauche, à droite. Alors effectivement, si on prend la toute dernière, celle de Sørensen, on se dit que c'est Fribourg qui a plus perdu les pédales que Lugano. Mais il y avait quand même énormément d'émotions. Et puis je pense que Lugano, je me demande même si sur ce match, n'a pas eu plus de pénalités que Fribourg.
Plus, ouais. Oui.
Donc ils n'étaient pas non plus maîtres de leur nerf. Donc,
parce qu'il faut les arrêter, les Fribourgeois, c'est ça justement. Ils savent qu'ils sont inférieurs. Et parfois, il n'y a pas d'autre choix que d'être illicite.
Pour Gautheron, on l'a dit, ils mènent toujours 2-1. Ils ont toujours cet avantage de la glace et de la maison, qui est quand même, même si on peut dire, voilà, Gautheron a gagné à Lugano, Lugano a gagné à Fribourg, l'avantage n'est pas si important que ça, mais tous les joueurs le disent, c'est plus confortable et plus agréable de jouer, de ne pas avoir le déplacement, d'avoir le public avec soi. Ce match 4, il est important, mais il n'y a pas non plus besoin pour Gautheron de se mettre une énorme pression sur ce match-là. Évidemment que s'ils gagnent, ils font un grand pas vers les demi-finales. Évidemment que s'ils perdent, Lugano va sortir encore un peu plus renforcé en confiance. Mais la situation n'est pas alarmante non plus. Et Gautheron doit garder la tête froide et appliquer son système de jeu finalement. Il ne faut pas non plus tout remettre en question, ouais. Pierre.
Bon, on oublie un petit peu que c'est vrai qu'on a l'air alarmiste, mais on oublie que c'est 2-1 dans la série et que finalement Fribourg est toujours en bonne position. Il lui suffit, entre guillemets, de gagner deux matchs à la maison. Cette équipe est capable de faire, donc elle n'a plus besoin d'aller gagner à Lugano. Mais au-delà du score dans la série, c'est aussi une question de dynamique. Si tu vas perdre à Lugano, que tu as perdu ton meilleur joueur, là encore, c'est du conditionnel. Là, tu as une immense pression au match 5. Et je pense que Gautheron aura bien envie.
Disons que là, il y a de mauvais souvenirs qui peuvent ressortir, parce que si on se retrouve avec une défaite de Gautheron au match numéro 4, eh ben on se retrouve dans une série qui ressemblait un peu au pré-playoff de l'année passée, où on est dans une série 3, là. Et là, il vaudrait mieux pas avoir de mémoire, disons. Voilà. Il faudrait même, encore une fois, il ne faut pas s'alarmer, c'est vrai. Gautheron mène 2-1 dans la série, Gautheron est meilleur. Voilà. Il faut en rester à ça. Je pense.
Quand même quelques arguments pour Gautheron. Béra n'a pas un énorme travail, tu l'as dit, sur les matchs, mais il répond quand même présent sur cette série. Avec un peu de chance aussi, les poteaux. On voit qu'il y a quand même pas mal de poteaux des deux côtés, d'ailleurs.
Il faut le tirer entre les jambes. Fadini a compris, quand même. Fadini deux fois exactement le même but.
En pleine lucarne, ça marche aussi, visiblement, à voir Rotsalainen. Il a aussi trouvé une faille, mais voilà, on n'avait pas d'inquiétude sur Béra, il est là. En défense, on voit que, notamment, Borgman a vraiment haussé le ton en
play-off. Impressionnant, ouais, hier.
Et ça, c'est une des très bonnes nouvelles, je trouve, parce que il y avait le tout début de saison où c'était très compliqué. Après, il a eu un excellent passage en automne. La fin de saison, visiblement, monsieur attendait un peu le début des playoffs et des choses sérieuses, mais là, il est omniprésent et c'est vraiment le patron, en fait.
Il a vraiment pris le dessus sur Gunderson, si on peut faire la comparaison. Gunderson, que j'ai trouvé par ailleurs pas terrible, franchement, mercredi. C'est rare de le voir faire des erreurs, il en a fait plusieurs. Et puis après, ben, c'est clair qu'au niveau de l'impact physique, il est en retrait par rapport à Borgman, qui fait beaucoup, beaucoup de bien dans cette défense.
Ouais. Cotteron, avec sa défensive, reste peut-être l'élément point d'interrogation, un tout petit peu quand même. Même si on n'a rien à reprocher pour le moment, effectivement, Gunderson est un petit peu en dessous hier, même s'il a eu un ou deux pucks de match pratiquement. Hein. Mais Gunderson était un petit peu en dessous. Encore une fois, mais là, c'est plus global. Par contre, ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas de problème vis-à-vis des arrières fribourgeois d'ici la fin de la saison, parce que le banc est beaucoup trop court, on l'a vu. Et ça, j'avoue encore aujourd'hui que je me pose toujours la question pourquoi on n'a pas essayé de renforcer un tout petit peu cet aspect défensif. Moi, j'ai beaucoup plus peur. Bien sûr.
Mais tu dis avec un joueur suisse ou bien
un renfort avant quand on pouvait encore le faire. Moi, ce que je pense simplement, c'est que aujourd'hui l'absence de Sørensen est dommageable, mais je pense que ce serait encore beaucoup plus dommageable si on devait avoir une absence dans les lignes arrières dans un prochain match. Voilà.
Et puis en attaque, on a dit la première ligne ou la ligne de la Rose fonctionne quand même bien. Peut-être un peu plus d'efficacité pour Berchi notamment, qui aura besoin de débloquer son compteur. Valmark Sørensen toujours là, toujours compliqué, enfin, ou pas, je vois que Pierre il me fait. Jusqu'ici, la ligne a répondu présent. La troisième ligne avec Schmidt-Sprunger, c'est toujours assez compliqué.
On n'a pas beaucoup vu.
Non, on n'a pas beaucoup vu. Toi, t'es trop focalisé sur le match 3. Mais
32 secondes.
32 secondes, ouais. Mais même avant, sur la série... Elle est assez insignifiante, elle était souvent face à la quatrième ligne des jeunes de Lugano. Voilà, ça s'équilibrait un petit peu. Mais... Et puis Valzer, Jörg Marchand, par contre, qui fait un super boulot. Et on voit ces quatrièmes lignes en play-off, toujours on en parle, mais c'est à ce moment-là qu'elles sortent du bois et qu'elles sont efficaces, qu'elles sont précieuses.
Parce que le jeu devient plus défensif, voilà.
Ouais, mais ça, c'est le cas à Fribourg, c'est moins le cas à Lugano. Alors c'est une question d'expérience finalement et de qualité. On voit que la ligne de Gauthieron a beaucoup plus d'expérience et coûte beaucoup plus cher. Je pense aussi que celle de Lugano, mais l'investissement en vaut la chandelle. Elle est pas vitale, mais elle est très précieuse cette ligne.
Ouais, puis surtout dans le scénario où elle match celle de Turkov, parce que ça permet finalement aux deux lignes fortes fribourgeoises de jouer contre des lignes aussi plus faibles. Donc elle est pratique aussi dans ce sens-là. Cela dit, mercredi, j'ai l'impression que Dubé et le staff a moins essayé de matcher tout d'un coup la ligne de Turkauf. C'est vrai que dans la précipitation...
En début de match, plus
ouais,
et après moins.
Ouais. J'aurais bien voulu poser la question à Dubé, mais c'est vrai que le match a fini très tard.
C'est l'absence de Sprunger.
Ouais, alors qu'il a distribué un peu les cartes aussi, c'est vrai qu'après, des fois, les lignes étaient un petit peu.
C'est vrai que pour le match
adapté.
Numéro 4, il ne faudra pas oublier que c'est Gianni Nadi qui a le dernier choix.
Il n'a pas beaucoup utilisé cet avantage quand même lors du premier match à Lugano.
Mais là, justement, vu les circonstances, encore une fois, entraîneur moderne capable de s'adapter très vite.
Votre vision, notre expertise. Régibulle Immobilier répond à toutes vos attentes. Gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Retrouvez toutes nos offres sur régibulle.ch.
On verra ce match 4, comment vous voyez la suite de cette série, en sachant encore une fois qu'il y a quelques points d'interrogation, mais tu l'as dit, Philippe, Gauthieron reste...
Alors pour moi, Gauthieron est supérieur.
Et supérieur.
Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas tout remettre en cause parce que tout à coup, on perd un match en prolongation à Fribourg.
Ah, c'est à Fribourg, c'est comme ça.
Ouais, mais c'est ça. Alors, ne paniquez pas. Non, mais moi, je pense que Fribourg est meilleur et que sur la longueur de 7 matchs, c'est le meilleur qui passe habituellement. Donc moi, je ne me fais pas trop de soucis. Effectivement, il faudra voir maintenant quelles sont les décisions au niveau des éventuelles suspensions, etc. Mais même, je pense qu'aujourd'hui, Gauthieron, de par son expérience, de par la manière d'aborder les matchs de ses mercenaires, voire même de ses joueurs suisses expérimentés, est supérieur à un Lugano qui a beaucoup, beaucoup de talent. mais qui a sans doute encore pas mal de choses à apprendre pour arriver au niveau de Gauthieron, au niveau gestion même d'une série, je pense.
Ce sera quitte ou double, à mon avis. Soit Fribourg arrive à réagir six sanctions contre Sorensen Ilia et puis finalement gagne cette série au caractère en allant gagner à Lugano, ou alors ça peut aussi créer l'effet inverse et puis finalement Lugano prend l'ascendant. C'est aussi un scénario qui est possible après ce qui s'est passé hier, mais comme Philippe, moi je pense que Fribourg a les armes pour passer. Pas oublier qu'il y a encore 24 heures, on se demandait s'ils avaient gagné 4-0, donc ouais. Il faut pas tout remettre en cause parce qu'il y a une défaite.
Ouais, dans votre baromètre, moi je resterai à 60-40.
On
a mis à 70-30 hier quand même, parce qu'on était monté à 85-15.
Ouais. Bah, on redescend un peu, mais je pense qu'il faut quand même garder.
Si Sorensen est suspendu, ouais. Est-ce qu'on descend?
Ah, c'est qui s'occupe du sujet aujourd'hui. C'est Pierre, donc tu choisiras. Mais en tout cas, le match 5 à Fribourg sera intéressant, parce que où il sera décisif, où tout sera relancé. Donc voilà, les Fribourgeois ont un match de plus, les supporters. Un bon match de play-off, c'est quand même des matchs très sympas avec beaucoup de suspense.
C'est 200 000 balles de plus pour les caisses.
Bah voilà, tout le monde est content.
C'est le septième, c'est le septième étranger pour la saison prochaine qui est assuré.
Je t'ai dit, tu vas finir à Gauthieron avec tous tes... T'es trop fort avec tous tes calculs comme ça.
C'est approximatif, je ne sais pas.
On termine avec quelques questions de nos auditeurs. C'est un peu pêle-mêle. Peut-être qu'on reste sur le hockey d'abord avant de parler de toi, Philippe. On se projette déjà, mais il y a Seth Gisol qui demande comment battre Zurich. Alors, on vient de dire qu'on ne sait pas s'il passe Lugano, mais on va voir. Donc, ça pourrait être d'abord encore Lausanne, Zug ou Berne, et puis après une éventuelle finale contre Zurich qui mène pour l'instant 3-0.
Ça peut être une question générale, comment battre Zurich, peu importe l'adversaire.
Tout à fait, ouais.
Ah bon, je pense que Zurich est meilleur que Fribourg. Je vais être franc. Vous aussi, peut-être, je ne sais pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, quand Gauthieron n'est pas devenu champion, il devait l'être. Parce qu'il était meilleur que ses adversaires, mais il a raté aussi en fonction de certaines circonstances. Parce que le gardien n'était pas au niveau, parce que si, parce que ça. Mais Fribourg, dans l'ensemble, était meilleur, mais n'a pas été champion. Cette année, si Fribourg n'est pas champion, eh bon, on pourra dire que c'est parce que son adversaire aura été meilleur que lui. Je pense que fondamentalement, aujourd'hui, les TTC Lions sont meilleurs que Fribourg. Maintenant. Attendez, peut-être que Malguin va se prendre une suspension, peut-être que... Ben, oui, non, mais tout est possible. Et donc, en fait, c'est très difficile. De toute façon, les journalistes, en général, on est assez nuls dans les pronostics, puisqu'on est trop logique. Donc, moi, je ne fais plus de pronostics, mais je pense que quand même, Zurich, globalement, est meilleur. Alors, bien sûr, il y a moyen d'enrayer la machine, mais maintenant, c'est plutôt une question à poser à Dubé. Hein.
Pierre, comme le 2 février, c'était, je crois, la date. Fribourg a battu Zurich, donc voilà comment battre Zurich. Il faut réitérer ce match à domicile que Gauthieron avait gagné.
Il faut le réitérer 4 fois.
4 fois.
Ouais.
C'est facile.
C'est ça.
Ouais, facile.
Voilà. Une autre question d'Eric Sonnet qui demande si la National League à 14 est viable à long terme, selon toi. Est-ce que déjà tu es content de voir ces 14 équipes?
Aujourd'hui, on fait comme si on avait une ligue déjà fermée. Donc le problème vient d'abord de la Swiss League. On ne sait plus trop aujourd'hui à quoi sert la Swiss League, si c'est une ligue de développement, si ça, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, une ligue à 14, moi je pense qu'elle peut se justifier si on la ferme. Parce qu'il y aura suffisamment de représentants aussi de toutes les régions pour avoir un championnat attractif. Maintenant, il ne faut pas oublier, puis on l'a vu avec la Swiss League aussi, il manquerait alors quand même cet élément essentiel qu'est le frisson de la promotion-relégation. Franchement, je trouve que c'est un scandale qu'on n'ait pas eu l'occasion d'avoir déjà le Clotenageois pour désigner un perdant pour affronter le champion de Swiss League. Mais donc ça veut dire qu'il faut d'abord régler le problème de la Swiss League, parce que avoir en finale 2 clubs qui ne peuvent pas atteindre l'élite, c'est grotesque. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, pour revenir sur la question, 14, c'est beaucoup, mais regardez les autres championnats, les autres grands championnats étrangers, c'est la norme, hein. Que ce soit en Suède, que ce soit en Finlande, on n'a plus de championnat à 12 clubs.
Ouais, moi, je suis vraiment convaincu par le championnat à 14. Déjà par la formule qui permet d'affronter 4 fois les 13 autres équipes, ça évite ces matchs en plus contre
ces matchs régionaux, ça n'a aucun sens et c'est pas équitable, surtout à la fin. Vous pouvez rater des playoffs justement parce que
NHL, c'est
comme voilà. Ouais, mais bon, là vous avez quand même 32 équipes, hein, c'est quand même un peu différent, hein.
Après, ça se fait vraiment au détriment du reste de la pyramide du hockey suisse. La Swiss League finalement perd ses 2 meilleures équipes dans ces conditions et elle souffre. Donc je pense que c'est une réflexion plus globale à avoir, mais comme la National League est un petit peu séparée du reste, je ne suis pas sûr qu'elle aura lieu.
Mais à tous les niveaux, regardez, si on regarde encore un cran plus bas, et ça, donc ça a une influence avec aussi la Swiss League, regardez, moi je trouve que c'est un scandale ce qui s'est passé avec Guin, enfin on va pas revenir encore là-dessus, mais cette année, finalement, on a l'impression qu'on place les équipes où on a envie de les placer, c'est un petit peu ça, et ça va pas, c'est pas crédible, voilà.
C'est pas que dans le hockey.
On est en dehors du hockey, là ça devient politique, ouais. Et ça me gêne beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train gentiment de placer les équipes, même chez les femmes, hein, regardez ce qui s'est passé avec Zoug. Mm-hmm. On est en train de placer les équipes dans la ligue qu'on a envie de les mettre, et après, on va peut-être la fermer, la ligue. Moi, je trouve ça malheureux, et il manque quand même ce frisson des séries finales. Ouais. Quoi.
L'équipe féminine de Zoug, d'ailleurs, ils auraient pu la placer direct tout en haut quand même.
Mais bien sûr.
Qu'elle gagne 21-1 le match décisif.
Oui, mais regardez à ce moment-là, il y a un an, le Fribourgeois.
Elles n'ont pas encaissé un but en finale, il me semble.
Elles ont un seul.
Elles en ont encaissé un.
Mais regardez, à ce moment-là, Fribourg, qui est né au promu, pour avoir bien travaillé sur la glace, se retrouve au même niveau que Zouk, qu'on a créé comme ça artificiellement. Moi, si je suis joueuse fribourgeoise, je n'apprécie pas trop. Donc, c'était logique quand même de ne pas les faire débuter tout en haut, mais par contre c'était peut-être à Zoug de modérer un tout petit peu son ambition au niveau des joueuses, s'assurer une première place c'est relativement aisé quand même, on a vu ce qui s'est passé quand vous gagnez tous vos matchs 15-20-30-0, voilà, mais il y avait sans doute moyen de la part des dirigeants zougois de pas trop en faire pour la première année, s'assurer la promotion, ok, mais peut-être pas de façon si nette, quoi. Ouais. Voilà. Et je peux déjà vous annoncer que la saison prochaine le favori pour la Women's League c'est Zoug, ça c'est évident. Pronostic de journaliste.
Encore un scoop. Quel scoop.
Eh bien, on va parler un petit peu de journalisme, mais aussi des dragons. Greg Neuhaus qui demande si tu as prévu un volume 2 des années dragons.
Ouh là là. ça veut dire qu'alors à ce moment-là, Gauthieron serait champion. Enfin, j'ai toujours dit qu'il y aurait un volume 2 si Gauthieron venait être champion. On parle de la vidéo. Mm-hmm. J'avais aussi sorti un bouquin à l'époque. Hein. J'avais pas mal de problèmes. C'était le début du merchandising et des droits et tout ça. Je me souviens que j'avais eu pas mal de problèmes avec les dirigeants de Gauthieron de l'époque, qui m'avaient même fait inscrire à la fin du bouquin que ce livre avait été écrit sans l'accord du club fribourgeois. Donc, vous voyez, ça devient difficile de faire des choses si ça ne vient pas directement du club lui-même. Et je crois qu'avec Marc-André Berset, ils ont les personnes compétentes pour réaliser encore une fois une deuxième belle vidéo sur un éventuel titre de Fribourg-Gotteron. Oui, j'aimerais bien le faire, mais comme je vous l'ai dit, je rentre gentiment dans le rang. Donc, on va laisser la jeune génération s'en occuper. Voilà.
Alors, on parle de tes souvenirs, du coup. C'est la question de Bobby 71 qui lui veut savoir pourquoi tu es parti de la RTS. Tu étais clairement le meilleur des commentateurs. Il te regrette encore, visiblement.
Ça fait plaisir.
Tu veux revenir sur cet événement?
Non. Je suis officiellement parti. Maintenant, il y a un peu prescription. Hein, je suis officiellement parti de la RTS en bon terme. Oui. Et non, c'est-à-dire que ça faisait très longtemps que je voyais arriver le phénomène des télévisions privées, et notamment Téléclub. Et moi, j'étais rédacteur en chef adjoint à l'époque, hein, au sport de la RTS. Et j'arrêtais pas de répéter sans arrêt, faites attention, on va avoir des ennuis, faites attention, on va perdre des droits, etc. Et puis on m'a jamais vraiment écouté. Et un jour est arrivée la proposition de Téléclub de les rejoindre. Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc j'ai quitté la RTS en bon terme, oui, par rapport à tout ce que j'ai pu faire grâce à eux. J'ai quand même fait grâce à eux 9 Jeux Olympiques, ils m'ont quand même donné un bon bout de ma carrière. Mais en même temps, ils n'ont pas apprécié que je parte, parce que théoriquement, quand tu rentres à la SSR, t'en sors plus. Et à l'époque, en tout cas à mon époque, on n'était que deux, je me souviens plus du nom du deuxième, qui avaient osé quitter la SSR pour partir dans le privé. Et donc je l'ai fait parce que je voyais encore une possibilité de développement et de faire plus de hockey, puisqu'à la SSR, malgré le fait que la SSR avait tous les droits, y avait le hockey, mais il y avait aussi beaucoup le foot, il y avait les autres sports. Et moi, je suis toujours multisport, mais j'ai toujours été plus hockey. Mon gros regret, finalement, d'avoir quitté la SSR, c'est d'avoir aussi abandonné l'athlétisme. Voilà, pour être très franc, c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est de ne plus faire d'athlétisme. Mais j'ai jamais regretté mon départ de la SSR, mais ça s'est fait, disons, de manière correcte, sans plus. Voilà.
On voit ton expérience. J'allais te relancer sur savoir si tu avais des regrets. Donc, tu as déjà répondu. Et peut-être qu'on peut terminer avec la question de Romain Ediger qui te demande justement qu'est-ce qui a le plus changé dans la profession de journaliste sportif, la plus grande évolution.
Vous êtes jeune, donc je ne sais pas si vous avez connu ce que j'appelle encore l'époque dorée du journalisme sportif. Moi, j'ai connu la fin à la SSR. Quand je suis arrivé, on était encore assis dans des fauteuils. Aujourd'hui, ils sont plutôt sur des tabourets, voire même des chaules, hein, comme on dit. Donc, la grande différence, je pense que le déclic s'est un peu produit à la fin des années 2000. À partir des Jeux d'Atlanta et tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y avait un vrai contact entre les sportifs. Et au niveau régional, je sais que c'est encore possible, mais au niveau national ou international, ça devenait de plus en plus délicat. Et moi, je dois avouer que durant toute ma carrière, ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir aller au contact avec ces gars. Ils étaient quand même accessibles. On avait même parfois des contacts privilégiés sur l'athlétisme. Je prenais mon déjeuner avec Lars Riedel et puis j'allais boire des verres le soir avec Hicham El Guerrouj. Donc, vous voyez, c'était aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Et c'est ce qui me manque le plus, c'est ce contact parce que tout a été maintenant réglementé, tout est carré. Aujourd'hui, un responsable des médias qui, théoriquement, on devrait aider le journaliste dans sa tâche, devient de plus en plus une barrière. En tout cas au niveau national, voire international. Au niveau local, je crois que c'est encore un peu différent. Mais voilà, donc c'est ça, pour moi, l'évolution numéro un, ça a été ça. C'est-à-dire que on est moins intégré dans la vie même du sportif. Et puis l'évolution numéro deux, ce sont les moyens techniques qui font qu'effectivement, on a maintenant le soutien de technologie qu'on n'avait pas à l'époque. Et ça permet de faire des choses inimaginables. Il y a encore 20 ans. Voilà.
Tu pourrais inviter Bernd Wolf pour boire un verre, sans doute.
C'est vrai.
Ouais, il est trop bien l'hôpital, c'est ça. Ouais. Non, j'ai oublié une dernière, ça serait dommage, parce que c'est un tes souvenirs, le meilleur, l'interview qui t'a la plus marqué et celle que tu gardes en mémoire, justement.
L'interview
c'est Gilles, ou peut-être rencontre. Enfin voilà, il parle d'interview en tout cas, Julon.
En tant que journaliste sportif,
j'imagine, ouais, mais on est très libre dans ce podcast. Tu peux dire ce que tu veux.
Je peux me la péter un peu.
Vas-y, fais-toi plaisir.
La rencontre qui m'a le plus marqué, c'est celle avec Jean-Paul II. Mais bon, ça, c'était dans un autre contexte. Une interview que je n'oublierai jamais, c'est celle avec un joueur du FC Sion, mais par... Je vais taire son nom parce que voilà, je n'ai jamais vu une interview aussi impossible à faire qu'avec ces joueurs suisses de foot qui n'avaient aucun... Ça date déjà d'il y a 25 ou 30 ans, mais à l'époque, ils n'avaient pas l'habitude de parler devant les caméras TV ou devant les micros des radios. Et la plupart des interviews, mais c'était de l'équilibrisme et c'était nul. Mais nul, je me suis toujours demandé d'ailleurs pourquoi souvent, parfois encore aujourd'hui, on fait encore des interviews avec des joueurs après les matchs. C'est nul, ça n'a aucun sens. On ne peut pas leur demander d'avoir le recul nécessaire dans les minutes qui suivent et surtout ils ne maîtrisaient pas les techniques de communication et ça leur arrivait de dire des bêtises ou de ne rien dire du tout justement je retiens surtout les interviews impossibles de l'époque parce qu'ils n'étaient pas formés pour répondre aux questions des médias. Voilà. Aujourd'hui on leur donne des cours.
Ils sont trop formés.
Aujourd'hui on leur donne des cours.
C'est beaucoup plus intéressant, ouais. Mais il y en a qui s'en sortent très bien.
Daniel Carr s'en est très bien sorti
sur Daniel Carr, c'est incroyable. Il a rien voulu dire. Par contre, le matin même, dans une interview donnée à la RSI, on n'arrivait plus à l'arrêter.
Ouais.
Ça parlait, il parlait. Et puis le soir, trois mots. Quoi.
Bon, après, ouais. À sa décharge, entre deux tiers, alors que t'es mené, alors que ta ligne ne marque pas, et qu'on te dit votre ligne ne marque pas, vous êtes vachement bien muselé. Je sais pas si j'aurais réagi différemment. La question était pertinente, mais sa réaction, compréhensible.
Et le timing peut-être pas idéal non plus.
Ouais.
Non, voilà. C'est la joie des interviews au milieu des matchs maintenant. C'est même plus à la fin des matchs.
Ouais.
Philippe, tu vois,
c'est
ça
vrai.
A évolué.
Mais voilà, c'est ça.
Merci beaucoup.
Ça, vient, ça, c'est peut-être un des rares points positifs qui vient des États-Unis. Parce que autrement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont... Justement, je parlais de cette transition après les Jeux d'Atlanta où on a appliqué depuis Atlanta des méthodes qui étaient intéressantes au niveau du journalisme lui-même et de la capacité d'avoir des informations. Par contre, pour les obtenir, c'est devenu l'enfer. Voilà.
terminera là-dessus. Merci beaucoup, Philippe, d'être venu.
Ouais,
merci,
c'est un plaisir.
Pour ton scoop.
Merci beaucoup. À la prochaine. Ouais. Bonne puis, retraite.
Prochain, ouais, ouais. Prochain scoop la semaine prochaine. Donc, hein, soyez attentifs. On fera un podcast, j'imagine, à la fin de la série de Gotteron, du coup.
Ouais,
bilan.
Et toujours pas de communiqué. Hein. Je tiens à préciser. Voilà. Voilà. Soyez indulgents si vous écoutez et que vous avez.
On verra s'il rentre dans l'histoire, ce podcast, ou pas. Merci beaucoup. Bonne suite de playoff et
bye
à
bye.
Bientôt.
Ciao, ciao. Bonjour,
bye.
C'était Point de vue avec Régie Bulle Immobilier.
Vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de Fribourg-Gotteron. Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un nouvel épisode.